sur la symbolique du bon vin à déguster. L'apôtre Paul écrit à son ami Timothée, au chapitre 5, au verset 23.
Comme vous voulez. Donc, je reprends l'apôtre Paul, donc, il écrit à son ami Timothée, c'est dans la Bible, chapitre 5, verset 23, « Ne bois pas seulement de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac, puisque tu es souvent malade. » C'est une parole pastorale, pas médicale, hein, je le dis tout de suite. Hein. Alors, un autre verset étonnant, du prophète Zacharie, au chapitre 9, le verset 17, « Le blé donnera de la force aux jeunes gens, et le vin nouveau en donnera aux jeunes filles. » Voilà. Mais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, si je puis dire, nous allons invoquer la présence de Dieu, et puis nous chanterons, après l'invocation, « Tous ensemble, notre Dieu. »
Prions. Prions pour accueillir la Bible. Comme une bonne bouteille de vin doit reposer pour laisser déposer la lie, faisons halte en nous-mêmes. Et les troubles de notre cœur pourront se clarifier, que toutes nos inquiétudes puissent décanter et que nous nous sentions vraiment apaisés. Comme un vin harmonieux se laisse boire avec délices, Seigneur, que ta parole, qui a du corps et de la souplesse, un goût fruité et généreux, nous réjouisse sans nous faire tourner la tête et nous permette de nous bonifier aujourd'hui et avec le temps. Amen. Une lecture aujourd'hui dans l'évangile de Jean au chapitre 2, les versets 1 à 10. Deux jours après, il y eut un mariage dans la ville de Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Quand il ne resta plus de vin, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit: Mère, est-ce à toi de me dire ce que j'ai à faire? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit alors au serviteur: Faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 de ces vases de pierre que les Juifs utilisaient pour se laver selon les règles religieuses. Chacun d'eux pouvait contenir une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs: « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Alors Jésus leur dit: « Puisez maintenant un peu de cette eau et portez-en au maître de la fête. » Ils lui emportèrent. Le maître de la fête goûta l'eau qui s'était changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela donc le marié et lui dit: « Tout le monde sert d'abord le meilleur vin, puis quand les invités ont beaucoup bu, on sert le moins bon. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à maintenant. » Voilà comment Jésus fit le premier de ses miracles à Cana en Galilée. Il fit apparaître ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen.
Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, en fait, cet épisode est très simple à expliquer. C'est un récit symbolique, évidemment, qui est tout à fait dans la logique des relations entre les chrétiens et les juifs à l'époque où Jean rédige son évangile. N'est-ce pas ? Les pharisiens, du temps de Jean, ce sont les pharisiens qui dominent le judaïsme. Et leur foi, se concentre sur des règles strictes et sur des rites, et entre autres les rites de purification. Il se lavait les mains avant de manger, mais pas pour des questions d'hygiène, il ne le savait pas à l'époque, mais pour des questions rituelles, pour se purifier. Or, les chrétiens, eux, ils vivent des pratiques qui sont fondées sur des symboles, tels que le baptême et la scène. C'est la première chose que les chrétiens ont faite, les juifs chrétiens, les juifs, la première chose qu'ils ont faite, c'était d'introduire le baptême et la scène dans les rites du judaïsme. Et ces gestes, ils reflétaient une relation renouvelée avec Dieu, marquée par la joie et la gratitude, symbolisée par le vin, qui est emblème du bonheur et des bienfaits divins qui sont partagés en communauté. Donc la séparation était inévitable. Et Jean a rédigé son évangile après cette séparation. Le texte des noces de Cana est un des plus faciles à commenter, du moins sur le plan historique, n'est-ce pas? Donc la première chose que je veux dire ce matin, c'est que le message est vraiment très clair. Lorsque Jean écrit son évangile, n'est-ce pas, les événements ont déjà séparé les chrétiens des juifs. Et donc ce sont les pharisiens, comme je l'ai dit, qui dominent le judaïsme. Et ces pharisiens, ils développent une spiritualité cérébrale qui est centrée sur la lecture de leur Bible, qui est notre Ancien Testament, et c'est d'ailleurs grâce à eux qu'il a été conservé, il faut quand même le dire, mais aussi, en plus, ils établissent toutes sortes de règles, et donc ils ont une foi que j'appelle comportementaliste. Pour eux, Dieu apprécie certaines pensées, certaines attitudes et certains gestes, et il en rejette d'autres. Et les pharisiens, évidemment, ils en expliquent les raisons et il faut absolument les suivre. C'est des intellos, vous savez, les intellos, des fois, il faut les suivre. Enfin, ils ne comprennent pas qu'on ne les suive pas, voilà. Alors, moi aussi je suis un peu intello, hein, ce n'est pas une critique, voilà. Donc, les cultes des pharisiens, ils sont centrés, enfin les cultes du judaïsme, puisque c'est les pharisiens qui le dominaient, sont centrés sur la manière dont eux, les pharisiens, comprennent la parole de Dieu. Et les célébrations du temps des pharisiens n'ont plus du tout le sens des célébrations de l'Ancien Testament. Ils ont rompu avec l'Ancien Testament sur ce plan-là, même s'ils le recopiaient minutieusement. Parce que les célébrations de l'Ancien Testament, donc de la Bible juive, elles étaient centrées sur la joie de vivre, avec en particulier un repas festif au milieu. Et donc, ces pharisiens se sont détournés de cet aspect-là du culte ancien. Et les chrétiens se distinguent dès le début en pratiquant le baptême et la scène. Ce sont des gestes, pas des paroles, même si, bien sûr, il y a des paroles qui accompagnent ces gestes. Mais le baptême est unique et il symbolise notre accueil par Dieu. Dieu nous accueille, c'est ce qu'écrit dans l'Évangile, quand Jésus est baptisé, Dieu l'accueille comme son fils adoptif. Et donc, le baptême symbolise notre accueil par Dieu une fois pour toutes. Donc, pas besoin de recommencer régulièrement. Or, pour ces pharisiens, la purification constitue un rite important à pratiquer avant les repas et des bassins d'eau sont prévus pour ça. C'est pour ça qu'il y avait des bassins d'eau. Et la scène, elle, c'est autre chose, c'est un symbole de communion. Et il est répété, car il soude la communauté. Et le mot même de scène, ça signifie repas du soir. Donc ce rituel est l'héritier direct de la manière dont Dieu était célébré dans l'Ancien Testament. Le peuple montrait tout simplement à Dieu qu'il appréciait tous les bienfaits créés pour le bonheur des humains. Le vin dans la Bible, il symbolise justement les bonnes choses. C'était une boisson difficile à obtenir à l'époque et elle n'était consommée qu'en de rares occasions. Et le langage biblique est très souvent symbolique parce que les anciens hébreux, ils parlaient toujours avec des images, pas avec de longs discours, mais avec des comparaisons. Ainsi, le vin, il symbolise par excellence ce qui est bon dans la vie et le fait qu'il faille faire des efforts pour avoir des bonnes choses, n'est-ce pas ? Et ce texte des Noces de Cana ne fait pas exception, bien au contraire. Que dit-il en fait ce texte ? Eh bien, il dit tout simplement que les rites de purification sont plus nécessaires. Nous sommes fils adoptifs, filles adoptives de Dieu, et le baptême symbolise cela une fois pour toutes. Inutile de le recommencer sans cesse. L'eau des bassins est donc devenue inutile. Alors elle est remplacée par le vin, symbole de la scène. Voilà pour le sens théologique de ce récit. N'est-ce pas, le vin symbolise dans la Bible tout ce qui est bon, et en particulier aussi ce qui est bon chez les autres, car il est souvent bu en groupe, très souvent en tout cas dans l'Ancien Testament. Et dans les célébrations, donc, il symbolisait, et il symbolise toujours dans la scène, la présence bienfaisante de Dieu qui partage la scène avec nous. Et ça m'amène à ma deuxième réflexion de ce matin, car il s'agit d'apprécier les enchantements que la vie nous offre, n'est-ce pas ? La symbolique du vin continue à parler de nos jours, n'est-ce pas ? Alors, selon un théologien dont je ne me rappelle plus le nom, oui, avec l'âge, on n'a plus la mémoire des noms, hein. La vie ressemble à une bouteille de vin capiteux. Certains se contentent de lire l'étiquette et d'autres dégustent le contenu. Oui, parfois nous nous contenons de lire l'étiquette et nous mettons la bouteille à la cave pour la laisser vieillir. Hein. Plus tard, peut-être, bien sûr. Savoir attendre, cela nous permet de déguster un vin meilleur, mais pas systématiquement. Cela dépend du vin, et seuls certains se bonifient en vieillissant. Donc, repousser les bonnes choses à plus tard, c'est une sagesse, mais seulement dans certaines circonstances. En plus, la cave doit être bonne pour permettre un vieillissement de qualité. Eh oui, se contenter de lire l'étiquette, c'est pas une bonne chose, enfin c'est une bonne chose, mais seulement à certaines conditions. Et en général, il est tout de même préférable de déguster le contenu lorsque la vinification a abouti. Nous nous contentons parfois de lire l'étiquette. Par exemple, lorsque nous refusons d'être heureux. Lorsque nous nous interdisons le moindre plaisir. Lorsque nous développons des comportements négatifs. Dès qu'il est question de nous-mêmes, chacune et chacun fait à sa manière cette expérience de ne pas avoir, une fois ou l'autre, eu le courage de sauter à pieds joints dans un bonheur qui se présentait à lui. Parfois, nous pensons ainsi faire plaisir à Dieu en repoussant les bienfaits de la création, comme si refuser les bienfaits de la création était un signe de respect pour le Créateur. Et Dieu, au contraire, il nous encourage et il nous dit « c'est bien, c'est bon, fais-le, vas-y, n'aie pas peur, lève-toi et marche ». Dieu a créé les enchantements de l'amour, la grâce des réussites, les liesses des bons repas, la douceur et tous les autres bienfaits pour que la vie puisse nous sourire et que nous puissions sourire à la vie. Alors accueillons ce qui nous est donné. Aimons et honorons la vie dont nous avons été gratifiés. Sentons-nous favorisés, justifiés, choyés. Même si tout ne va pas comme nous l'espérons, même si nous traversons des souffrances physiques, morales, une crise ou d'angoissantes difficultés. Et c'est important. C'est important, et c'est mon troisième point, c'est important de savoir que nous sommes choyés par Dieu. Parce que être choyé, ça nous aide aussi à aimer les autres. Ainsi, nous pouvons nous aimer, nous pouvons, et en nous aimant, nous pouvons aussi aimer notre prochain. Parce que l'amour du prochain, ça découle de l'amour que l'on a pour soi-même. Qui n'aime pas, ne peut pas aimer l'autre. Alors prendre soin de son propre bonheur permet de mieux s'ouvrir aux autres. En se souciant de son propre bien-être, on développe une meilleure compréhension de ses besoins et de ses émotions. Et cette connaissance de soi, eh bien, elle crée un équilibre intérieur. Et cela se diffuse naturellement ensuite vers l'extérieur. Qui est en harmonie avec soi-même, écoute mieux, soutient plus facilement les autres et partage sa joie avec eux. Le bonheur personnel, ce n'est pas un acte égoïste. C'est une fondation sur laquelle se bâtit notre capacité à aimer et à aider. Qui néglige son propre bonheur risque de projeter ses frustrations sur autrui et ainsi d'entraver la relation. En revanche, un esprit serein et épanoui devient un vecteur d'énergie positive, comme on dit de nos jours. Ce n'est pas une expression biblique, mais je l'emploie parce que de nos jours, on comprend ce qu'elle signifie. Prendre soin de soi permet donc d'accepter pleinement l'autre, de l'aider avec bienveillance et empathie. Cultiver son propre bonheur permet de contribuer à celui des autres. Car la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Quoi qu'il arrive, et quoi qu'il nous arrive, lorsque nous en prenons conscience, nous pouvons ouvrir plus facilement la bouteille et boire ensemble à la vie et à l'amitié, au lieu de simplement regarder l'étiquette. C'est essentiel de ne pas se contenter de lire l'étiquette de la vie, c'est-à-dire de seulement effleurer ses plaisirs et ses enchantements, mais de plonger pleinement dans ce que Dieu nous offre. Accueillir les bonnes choses, apprécier les moments de bonheur, fait partie de la reconnaissance des dons divins. En cultivant notre propre bonheur, nous nous ouvrons à l'amour des autres et à la joie partagée. C'est ainsi que nous honorons véritablement la volonté de Dieu, vivre dans l'amour, la gratitude et le bonheur. Amen.